Voilà, c'est parti. Bon, ben merci de nous recevoir.
Bah, merci à vous.
Melted Space, c'est ça?
C'est ça.
Comment s'est créé le groupe?
Ça date maintenant. C'est parti d'un exercice qu'un prof m'avait donné au conservatoire en électroacoustique. En fait, il m'avait demandé, il m'avait dit, dans un an, je veux que tu aies fait un album. J'ai dit, quoi, un album, mais je sais pas faire ça, moi. Enfin, je sais absolument pas comment il faut s'y prendre. Il m'avait dit, bah, t'as un an pour le faire. Bon. Et du coup, vu que j'étais en études, alors j'ai réfléchi à la question, j'ai toujours été très inspiré par la littérature, notamment Dante, que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai créé une sorte d'univers à moi, où je pouvais intégrer toutes mes diverses influences, et en me disant, bah voilà, ce serait une étape supplémentaire dans la Divine Comédie, un niveau où il n'y aurait que des dieux abandonnés, perdus, et qui du coup seraient confrontés à des problématiques très humaines, c'est-à-dire maintenant que je n'ai plus de pouvoir, qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en gros. Et du coup, donc, j'ai fait des démos. Alors je ne peux pas dire que ce soit un véritable album, parce qu'il est il n'a pas été diffusé, donc ça ressemble plus. C'est plus des démos, ou en tout cas les premiers jalons de
Un essai,
exactement. Et puis, bah, dans la foulée, je me suis dit, non, mais quand même, t'aimes le métal, tu en fais, est-ce que ce serait pas mieux avec de la voix? Et donc, du coup, je suis parti sur un titre centré sur Lucifer, que j'ai développé, qui s'est fini en un morceau de 20 minutes. Et c'est comme ça que From the Past, le premier album, est né, et petit à petit, bah, j'ai créé mon propre univers sous forme d'opéra métal, et qui nous amène maintenant à Darkening Light.
Qui êtes-vous, Pierre Lepape ?
Qui je suis ? Je suis un musicien classique, à la base.
C'est-à-dire ?
Que j'ai fait... j'ai fait le conservatoire, j'ai fait l'école normale de musique en composition de musique de film, que j'ai fait des écoles de jazz pour me rendre compte que c'était clairement pas mon truc. Et donc je suis musicien et compositeur.
Parlez-moi des membres de votre groupe, et surtout, comme vous les avez choisis,
oui.
Leur quintessence.
Alors... donc il y a deux line-up finalement, il y a la partie studio et la partie live. La partie live, on commence à avoir une équipe relativement fixe, et on retrouve toute l'équipe live se retrouve en studio. Il y a Michael Sacoman, le batteur, Brice Guillon à la basse, Adrien Martineau à la guitare, moi-même au clavier. Au chant, on a Aileen Jiménez, qui est l'ancienne chanteuse de Sirenia, Black Messiah, qui est l'ancien chanteur de Set, Guillaume Bideau, qui est l'ancien chanteur de Némic, et Lucie Blatrier, qui elle est chanteuse de jazz indépendante. Et en plus, donc, sur la partie album, je leur ai adjoint des chanteurs comme Jeff Scott Soto, Michael Stane, Clémentine Delaunay, Saki Stolis, Sylvia Vergerland, et tout un tas de... Au total, ils sont 12 chanteurs, et donc moi-même.
12 chanteurs ?
Ouais.
Pourquoi autant de monde ? Quel est le but d'avoir un groupe aussi C'est rare de voir ça, un groupe aussi formé.
C'est vraiment pour défendre la dimension d'opéra où chaque chanteur interprète un rôle particulier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de les faire interagir, évoluer. Voilà, du coup, il y a un côté acting et interprétation où chaque chanteur doit s'approprier son rôle.
Qui donne le rôle à chaque chanteur ?
Moi. Étant donné que c'est moi qui écris toute la musique et toute l'histoire, les paroles. Voilà, donc le big boss, c'est moi. Après, voilà.
Oui,
chaque il y a un travail qui est très intéressant.
Et comment avez-vous trouvé cette quintessence de chacun ? C'est quoi la quintessence de trois personnes, par exemple ? Qu'est-ce qui vous a plu le plus ?
Y a le côté humain, évidemment. Après, pour les chanteurs que je connaissais pas à l'avance, il y a la voix, forcément.
C'est quoi ce qui vous attire dans la voix ? Parce que vous êtes très lyrique, donc côté opéra, je veux dire, qu'est-ce qui va vous interpeller, qui va vous faire vibrer pour dire c'est celui-là ? C'est par rapport à ce que votre composition, vous l'avez déjà dans votre tête et vous voyez...
Oui,
des...
c'est voilà. Ça, ouais.
C'est comme un peintre avec sa touche. Hein.
J'écris l'histoire, du coup j'ai déjà une idée de ce que je veux raconter. Je me fais une idée aussi de comment je veux exploiter chaque personnage. Mmh. Et du coup, la voix que je vais lui associer commence à apparaître. Donc c'est comme ça que j'arrive à
chercher une voix.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Je vais arriver sur l'album Darkening Light. Quel est l'esprit de cet album ?
Quand j'ai commencé à réfléchir à cet album, je me suis demandé quelle histoire je voulais raconter. Donc soit partir sur la suite de ce que j'avais déjà fait, soit autre chose. Et en fait, il m'est apparu qu'il y avait une case manquante, vide, qui étaient les origines de tout ça. Pourquoi ? En fait, il manquait un pourquoi à ces histoires de dieux perdus ou de héros abandonnés. Et du coup, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de donner un sens, donner une raison à tout ça et faire en sorte que maintenant, j'ai les bases de quelque chose pas encore bien ancré, alors que voilà, tout à l'heure il y a un journaliste qui est venu avec les quatre albums. C'est vrai que en les voyant, c'est la première fois que je les voyais tous les quatre l'un à côté de l'autre, parce que chez moi il y en a un par-ci, un dans le bureau, un autre à l'étage. Je me suis dit c'est vrai que là je suis un grand cinéphile. Et donc j'aime beaucoup les univers étendus, interconnectés, qu'on peut trouver chez Marvel ou Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai que là j'ai eu l'impression d'avoir un univers où tous les albums étaient connectés entre eux, ce qui me donne maintenant une base pour faire à peu près ce que je veux ou raconter... partir sur l'histoire que je voudrais sur un prochain album.
Vous n'avez pas le sentiment que ces quatre albums ont un fil rouge ?
Si, complètement.
Cet opus qui se fait là,
oui.
Est-ce que c'est une apologie du rejet des notions de Dieu par l'homme ?
Oui, c'est...
Je parle de notions de Dieu.
Oui, bien sûr. C'est vrai que le... Alors, sans... J'ai jamais eu de prétention philosophique avec ce projet-là, ni de donneur de leçons ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les dieux, pour survivre, ont besoin que l'homme croit en eux. Et c'est vrai que là, cet album traite principalement le fait que l'homme étant créé, il a décidé de prendre le dessus, de s'auto-gérer et de vivre sa vie, délaissant complètement les dieux qu'il avait créés. y a donc vraiment une volonté de assez pessimiste finalement, de se dire voilà, l'homme n'est pas forcément, n'est pas foncièrement, je dirais pas bon, mais en tout cas voilà, il d'ailleurs dans les paroles à un moment le personnage du mensonge lui dit ta fierté va nous monter à tous et va nous précipiter dans le mur, quoi. C'est vrai que l'homme lui dit bah, moi j'ai envie de vivre ma vie par moi-même et non pas par ceux qui m'ont créé et qui n'ont, et voilà, qui n'a plus besoin d'eux, et du coup pour survivre ils sont obligés de créer leur monde.
En écoutant ce morceau, cette vidéo dont je parlais tout à l'heure, moi j'ai plutôt le contraire, je dis ça laisse de dire non à Dieu, tu nous laisses autonomes, et du fait que tu nous laisses autonomes, je suis l'homme et je vis par, en tant qu'homme. Quand je dis homme, c'est aussi bien femme ou homme. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
C'est l'entité de l'être humain, on va dire. Hein. Mmh. Et en écoutant ça, j'ai dit, ah ça c'est intéressant, parce que c'est pas un rejet de Dieu, c'est de dire merci comme à un enfant, tu m'as élevé, mais à un moment, c'est bon, stop, j'ai plus besoin de toi, je pars ailleurs, je me fais moi.
Oui, oui, oui.
C'est dans ce sens-là que j'ai vu.
Bah après, c'est certainement... moi, je le vois de mon prisme assez fataliste, assez, assez sombre, finalement. Et c'est vrai que tout à l'heure, pareil, on m'a rappelé une chronique qui était sortie, je crois, sur l'album d'avant, où la personne disait « Mais évidemment, c'est du Melty Space, donc ça va mal finir. » Et c'est vrai que y a cette, je sais que j'ai cette espèce de prisme...
Oui, bon, pour me revendiquer et vous revendiquer, je suis en vie.
Oui, 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 complètement.
Bah, je suis en vie, mais tout seul. Je suis en vie parce que je suis autonome et c'est très optimiste.
Alors, après, en fait, c'est pas tant sur ce passage-là, le pessimisme, c'est sur après l'homme qui.
Tout seul.
Voilà, l'homme tout seul et qui dit bon, bah, les dieux, au revoir, quoi.
Oui, mais au revoir, mais du fait que je suis seul, je ne doute plus que je suis seul, donc j'existe, donc je vis.
Ah, bah oui, 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 complètement, mais c'est vrai que du coup, je m'intéressais plus à l'aspect, à la vision des dieux eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont créé leur monde, ils ont créé l'homme qui se prend lui-même en main, ça c'est quelque chose de positif, mais qui du coup fait que eux vont devoir mourir pour le laisser vivre sa vie.
D'accord, vous les voyez, bon. C'est intéressant. Et cette vidéo que j'ai regardée est très futuriste.
Oui.
C'est votre univers où c'est, vous voulez emmener le lecteur qui écoute ça ou celui qui regarde de dire je t'emmène dans ce monde-là.
J'ai toujours veillé depuis le début à avoir, que ce soit dans le packaging des disques ou les vidéos, même ce qu'on peut présenter sur scène, j'ai toujours voilà, veillé à ce qu'il y ait un souci artistique dans la conception des outils promotionnels ou tout ça. Et c'est vrai que là, le design qui avait été proposé par le graphiste était répondait parfaitement à ce que moi j'avais envie de transmettre avec l'album. En l'occurrence, moi quand il a commencé à travailler sur l'album, je lui ai envoyé mes notes, je lui ai envoyé les démos. Construire l'histoire, j'ai fait beaucoup de recherches en bibliothèque sur la physique quantique, j'ai lu du Stephen Hawking, j'ai lu beaucoup de légendes mythologiques autres que gréco-romaines qu'on connaît par cœur et que j'avais déjà traité dans les albums d'avant, pour justement tirer des archétypes et des personnages assez généraux sans forcément justement les appeler dieux, mais c'était juste des concepts concept de début et de fin qui induit le cycle de la vie, le concept de chaos, d'harmonie, qui sont à la base de la création du monde, et ainsi de suite. Et c'est vrai que quand j'ai envoyé toutes ces notes-là au graphiste, je lui ai dit, voilà, moi je vois quelque chose d'assez spatial, d'assez monolithique, et dans spatial, c'est vrai qu'il y avait une dimension moderne, assumée, parce que dans la production de l'album, le son a orienté les choses de façon justement très moderne, l'utilisation de certains synthés, justement pour rajouter au modernisme, pour contrebalancer avec l'utilisation de l'orchestre. Donc c'est vrai qu'il y a un côté assez moderne dans la vidéo.
La vidéo, elle est super parce qu'il y a du noir, du blanc, les textes qui apparaissent. On est dans l'univers, on n'est pas sur Terre. Donc c'est l'idée d'amener celui qui voit, on est ailleurs, Dieu est ailleurs. Vous rejetez Dieu, mais quelque part, il y a comme une certaine recherche pour dire, je voudrais savoir si tu existes pour pouvoir te rejeter.
Oui.
Bon.
Après, oui. Non, juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi cette espèce de contraste entre quelque chose de positif, l'homme qui se prend en main, et l'aspect justement négatif vis-à-vis des dieux qui sont rejetés, en tout cas que moi je vois rejetés, qui a donné le titre de l'album, cette espèce de clair-obscur, donc Darkening Light, qui résume finalement plutôt bien les différentes impressions qu'on peut traverser dans l'album.
Mais comment travaillez-vous cet album ? Quelle est la genèse de cet album dans le sens, vous avez travaillé sur cette idée du rejet de Dieu, mais au niveau musique, où allez-vous chercher cette inspiration ? Donc on parle d'opéra métal, mais sur quel opéra vous allez chercher ? Quelle inspiration de la musique classique vous avez ?
J'adhère énormément à la vision d'art total, vision wagnérienne.
Je pensais de Wagner. J'ai eu ce sentiment, Wagner, malheur.
Oui, aussi. Certaines touches assez mozartiennes. Surtout pour ce qui est de Don Juan.
Oui, je pensais aussi de la perte du Don Juan, c'est très dramatique, c'est dramaturge.
Mais c'est surtout une inspiration wagnérienne, comme on disait, c'est-à-dire que le voyage commence quand on prend l'objet du disque entre les mains, on le déballe, qu'on va voir une vidéo qui va prendre l'auditeur par la main pour l'emmener ailleurs. C'est vrai que moi j'ai jamais eu d'autres ambitions que de proposer un divertissement tel un film ou un jeu vidéo, quel que soit le média, mais qui permettent de s'évader à mesure où le monde dans lequel on vit ne me fait pas particulièrement rêver. Donc c'est vrai que je vais aller chercher des inspirations ou en tout cas des sujets qui, eux, me font rêver pour pouvoir m'évader.
Si je vous disais l'opéra métal, faites-moi une fresque avec quelques mots de ce que c'est pour vous l'opéra métal.
L'opéra métal, comment je pourrais le décrire ?
Par une peinture, par des couleurs, c'est quoi ? Juste une petite fresque rapide.
L'opéra métal. Je sais. Voilà. L'opéra métal, je le dis. Une des meilleures représentations que je pourrais en faire, c'est, en tout cas en donner, c'est La Porte de l'Enfer de Rodin.
Intéressant.
Parce que c'est quelque chose de très imposant, de résolument sinistre, mais en même temps beau dans dans une certaine noirceur. Et c'est vrai que il y a des opéras métal plus joyeux, plus enjoués, c'est vrai, mais en tout cas moi la vision que j'en ai, c'est justement une espèce de grande fresque épique, très sombre et imposante.
Où vous voulez en... Comment vous naviguez sur ce style de rock? Où vous voulez emmener vos fans? Sur quoi voulez-vous les faire arriver en fin de compte? Quel est votre but?
Les faire s'évader.
Et quelles sont vos influences? Vous m'avez parlé de Wagner et tout, mais vos influences plus modernes? Quand je dis moderne, comme je vois qu'on parle dans le même sens, quand je dis moderne de musique, c'est fin du 19e, début du 20e.
Alors, pour le coup, mes influences seraient plutôt antérieures, dans le sens où je suis un très très grand fan de Liszt.
Effectivement.
Après, orchestralement parlant, revendiquerai plus Tchaïkovski pour
vibrant. Tchaïkovski, moi je dis, c'est un perturbateur.
Ouais, c'est en fait ce que j'essaye modestement de chercher, c'est une espèce de beauté froide, dans le sens où que ce soit les ballets de Tchaïkovski ou les opéras de Wagner ou la musique de Liszt, en fait je trouve qu'il y a un fil conducteur dans tout ça qui fait que c'est beau, c'est magnifique, mais en même temps c'est ça peut se montrer relativement hermétique, et du coup ça crée plus un sentiment de extatique, contemplatif.
Si je vous disais que vous êtes un grand romantique, quand je parle du romantisme, c'est vraiment le romantisme de Chateaubriand. Hein.
Oui, oui, oui. Ah bah je dirais que vous m'avez bien percé à jour.
Bien. Quelle idée majeure de cet album?
L'idée majeure, je l'ai fait vraiment dans un but, comme je disais tout à l'heure, de connecter avec les autres albums. Vraiment donner une cohérence à l'univers que je développe depuis maintenant 5 ans.
Cette cohérence, c'est quoi?
Ben justement, avoir un univers dans lequel j'ai mis des personnages qui venaient de différentes cultures, qui a priori n'avaient donc rien à voir ensemble, mais qui évoluent dans une espèce de sphère commune, qui maintenant a une explication, un début. C'est vrai que sur le premier album, j'avais posé la question: qu'est-ce que vous essayez de faire avec ces temps de différents dieux grecs, voilà. Et en fait, j'avais répondu en rigolant: c'est une thérapie de groupe pour dieux déchus. Et parce que je m'étais davantage intéressé, pas aux grandes histoires qu'on connaît par cœur des dieux de l'Olympe, mais sur les petites histoires qu'on connaît moins, sur les histoires d'amour impossibles ou ce genre de choses, ce qui du coup rejoint pas mal ce que vous disiez sur le fait que je sois un grand romantique.
Je parle du romantisme. Si vous dites ça aux fans, ils vont tout de suite penser à un romantisme.
Oui, au sens 19e siècle.
Moi, je pense vraiment du 19e, Chateaubriand. C'est l'outre-tombe, tous les écrits où on parle de ce côté spleen, oui, de ce côté noir, et ce ressenti, de ce sentiment de sortir. C'est vraiment les écrits d'outre-tombe. Hein, c'est...
Mais certains moments, j'ai vraiment l'impression d'être né au mauvais siècle.
Je pense que vous êtes le fils spirituel de Chateaubriand.
Merci. Un beau compliment.
Et quelle résonance vers où souhaitez-vous nous amener, justement, pour être pour ce jeune public, ces publics qui ne connaissent pas forcément Chateaubriand, vers quoi vous les emmener?
Moi, je me souviens quand j'étais petit, passer un dessin animé japonais qui s'appelait Chevalier du Zodiac. Et mes parents me disaient, pourquoi tu regardes ces bêtises, ça t'apprend rien. Et je leur disais, oui, mais effectivement, c'est la mythologie détournée, revue à la sauce d'un dessin animé qui n'a pas d'autre but que divertir. Mais je leur disais aussi, tu vois, ils parlent de Athéna, de Zeus, de Poséidon, de Odin, de machin. Alors c'était tout mélangé dans un sac et voilà. Je leur disais, mais au moins, ça, si on est un peu curieux, ça pousse à s'intéresser au sujet qui est traité et se demander, c'est qui Athéna, pourquoi Pégase, pourquoi Odin, qu'est-ce qu'il vient faire là. Et du coup, sans forcément avoir de grandes ambitions pour emmener l'auditeur quelque part. Après, moi, je travaille beaucoup sur l'imaginaire, c'est-à-dire que en écoutant les albums que je sors, chacun va se faire son histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment le film sans image où on part loin et on se fait son propre film. De façon un peu guidée par l'histoire que je raconte ou les paroles, mais chacun, on va dire, va visualiser ce qu'il a envie de visualiser. Mais du coup, sans avoir forcément de grandes ambitions derrière ça, il y a quand même, je me dis que sur l'album d'avant, j'avais traité de Perceval, du Sphinx, de Hagen, de, là on voit complètement Wagner. Du coup, je m'étais dit, je sais que un jeune public peut se demander qui sont tous ces différents personnages et qu'est-ce qu'ils font ensemble. Alors, effectivement, a priori rien à part dans l'univers que j'ai créé, mais du coup, ça peut pousser à se demander, ce personnage est intéressant pour tel ou tel aspect.
Vous n'avez pas peur de les dérouter?
Non, parce que c'est vrai que quand j'ai créé ce projet-là, ouvertement, je m'étais dit, tu fais un truc le plus large possible, comme ça tu mets ce que tu veux, sans limitation, quitte à ce que à utiliser des héros, des personnages, des divinités qui n'ont strictement rien à voir entre elles. Et justement, ce qui est intéressant, c'est et si elles se connaissaient, si Hadès rencontrait Satan, Lucifer, qu'est-ce qu'ils auraient à se dire? D'où la blague de c'est une psychothérapie de groupe pour Dieu déchu. Je sais que j'avais traité du dieu de la guerre qui n'avait plus de guerre à mener et qui disait j'ai plus de guerre, j'ai plus de royaume à conquérir, mais ce qui me reste, c'est mon histoire d'amour avec Aphrodite, que je n'ai jamais pu mener à terme parce que telle ou telle raison, mais je l'ai toujours aimée, et maintenant, dans cet univers fictif, je peux avouer cet amour-là et le vivre pleinement.
À quand votre prochaine BD?
C'est marrant parce que depuis ce matin, tout le monde me pose la question près d'un autre média que simplement un disque. Et j'y pense régulièrement, mais c'est vrai que c'est des projets qui demandent 2-3 ans de travail en amont, qui sont très fatigants, qui ont beaucoup de moyens financiers, logistiques, humains, mais c'est vrai que
la matière, hein.
Que ce soit sous forme littéraire,
vidéo,
c'est vrai que ça me...
C'est le rituel des enfants du Zodiac qui continue.
Voilà.
Vous êtes manager. Comment vous managez ce groupe? Parce que c'est vous qui écrivez, c'est vous qui faites la musique, les autres interprètent.
Oui.
Et comment vous managez? Parce que c'est vraiment un véritable groupe, là,
ouais,
par rapport à d'autres. Vous êtes donc multitâche?
Alors j'ai appris sur le tas, clairement, parce que pendant mes études au conservatoire, on m'a tout appris sauf ça. Maintenant, j'ai quand même la chance de travailler avec que des gens très expérimentés, donc qui du coup sont très faciles à manager, c'est-à-dire que c'est un projet quelque part à but professionnel, donc il n'y a que des gens qui sont dans la même optique, et quand on leur dit c'est rendez-vous telle heure pour répéter, parce qu'ensuite on va faire ci, on va faire ça, et qu'il faut le faire dans cet ordre,
ça suit. Fait, voilà, c'est pas des amateurs.
Non.
Quels sont vos projets?
Et ben déjà des concerts.
Prochain concert, c'est quand?
Prochain concert, c'est le jour de la sortie de l'album, le 23 mars à 3. Ensuite, on joue à la Boule Noire le 4
avril. Ah oui, vous êtes aussi à 3 avec Disconnected.
C'est ça.
D'accord. La Boule Noire?
La Boule Noire le 4 avril. Et du coup, probablement à partir de septembre, une tournée ou quelque chose comme ça. Là, on est en train de...
De peaufiner,
de lancer des pistes. Voilà.
Et sur scène, vous avez prévu aussi, parce que je vois très organisé au niveau de l'album, au niveau de la vidéo. Donc quand vous êtes un visionnaire sur scène, vous êtes comment? Comment vous présentez ce groupe? Est-ce qu'il y a des costumes? Est-ce qu'il y a un scénario? Est-ce qu'il y a des pistes scéniques?
Il n'y a malheureusement pas de scénario, parce qu'il faudrait jouer l'album entier et...
Mais une signature de scène, je veux dire, vous êtes le groupe.
Mais ceci dit, oui, on a des costumes de scène. On a travaillé pas mal sur une espèce de théâtralisation des entrées, des sorties, des chanteurs suivant leurs différentes interventions. Et comme vous parliez de la prochaine BD, c'est vrai que ça me passe aussi par la tête de temps en temps de me dire est-ce qu'on ne pourrait pas pousser, théâtraliser davantage les choses avec un orchestre même réduit, avec une mise en scène, avec des décors, avec, en poussant vraiment la chose à fond. Après, on va dire que je suis confronté assez vite à la même problématique, c'est que c'est 2-3 ans de travail. Je suis aussi quand même assez pragmatique avant de me lancer là-dedans. J'ai envie d'étudier les différents aspects de façon à ce que quand je me mettrai dedans, je saurai pourquoi, je saurai comment, avec qui. Mais j'ai rencontré récemment une metteuse en scène, j'ai rencontré des vidéastes. Donc on est en train de discuter de choses, il y a un clip prévu pour la fin d'année, il y a tout un tas de choses en cours, mais c'est vrai qu'à chaque fois, étant donné que c'est moi qui gère tout, c'est des projets qui demandent du temps, de la réflexion, un peu de recul aussi, pour bien faire les choses et faire en sorte que tout soit quelque part parfait, en tout cas soit
crédible
et cohérent avec ce que j'essaie de présenter.
Oui, sur le message que vous passez pour vous citer. Que souhaitez-vous dire à vos fans?
Que je les aime, bien sûr.
C'est important. Et une petite annonce pour cette radio et ce web magazine, All Rocks, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Déjà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura donné envie de venir découvrir l'album et pourquoi pas les albums précédents. Et puis, peut-être venir nous voir en concert prochainement.
Merci de nous avoir reçus.
Merci à vous.